à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 17 février 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Dans le sud-est du Niger, 50 djihadistes ont été neutralisés par les forces armées. Nouvelle alerte au coronavirus au Burkina Faso où une cinquantaine de passagers ont été placés en quarantaine. Le Cameroun a enregistré 5 cas supplémentaires. Le Togo impose des restrictions aériennes et l'Égypte met 300 familles en quarantaine. Covid-19 toujours, la France est confinée à son tour. L'Europe ferme ses frontières ainsi que le Canada, la Tunisie et la Colombie. Le gouverneur de l'Ohio a annoncé le report des primaires démocrates en citant l'urgence sanitaire à cause du coronavirus. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. 50 djihadistes ont été neutralisés dans la nuit du 15 au 16 mars à Toumour, dans le sud-est du Niger, a annoncé hier soir le gouvernement. Les détails avec Abdulrazak Idrissa.
Les 50 combattants de Boko Haram neutralisés faisaient partie d'un groupe encore plus nombreux qui a attaqué dimanche le poste militaire de reconnaissance de Toumour, localité située à environ 80 km de Diffa et seulement 7 km de la frontière nigériane. Selon le ministère de la Défense nationale, seul un militaire nigérien a été blessé lors de la riposte qui a permis de repousser l'ennemi. Aussi précise le communiqué, les renforts du bataillon d'intervention spéciale de l'armée nigérienne ont poursuivi les assaillants jusqu'à la rivière du lac Tchad. Ils ont capturé plusieurs suspects, saisi deux véhicules et plusieurs armes. Ce succès des forces de défense et de sécurité du Niger intervient après un autre le 7 mars dernier lorsque, dans un assaut de présumés éléments de Boko Haram sur la position militaire de Chetimawangu, la quasi-totalité des assaillants avait été neutralisée selon les autorités. Ces deux attaques en l'espace d'un mois viennent perturber une relative période d'accalmie dans la région de Diffa en proie depuis 2015 aux incursions de Boko Haram avec d'énormes pertes en vies humaines, civiles comme militaires. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Une cinquantaine de passagers d'un vol Ethiopian Airlines ont été placés en quarantaine à Ouagadougou suite à des soupçons de coronavirus à bord. Le point avec notre correspondant Kader Traoré.
Il s'agit d'un vol de la compagnie Ethiopian Airlines en provenance de la Chine via Addis Abeba et Niamey. À son bord, 59 passagers, dont 3 ressortissants chinois. L'appareil a été bloqué pendant quelques heures car les 3 Chinois étaient suspectés d'être porteurs du coronavirus. Selon la ministre de la Santé qui s'est rendue sur les lieux, l'avion a été immobilisé, les 3 Chinois ont été exfiltrés et pris en charge par une équipe sanitaire. La ministre Claudine Louguet a rassuré que tout est sous contrôle car les 56 autres passagers ont été conduits dans un hôtel hors de la ville de Ouagadougou pour un confinement. Ils seront contrôlés au bout de la mise en quarantaine. Quant aux 3 cas suspects, ils devraient subir des tests de COVID-19 ce jour. Par contre, l'ambassade de la Chine à Ouagadougou a pris le contre-pied de la ministre de la Santé en répliquant dans un communiqué que tous les 3 ressortissants chinois à bord de ce vol ne souffraient d'aucun malaise et ne portaient aucun signe d'infection. Par ailleurs, le gouvernement devait rencontrer les représentants des compagnies de transport aérienne qui desservent la capitale burkinabé. Kader Traoré, à Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Plusieurs pays africains ont adopté des mesures drastiques pour tenter de ralentir le Covid-19 et d'épargner au maximum des systèmes de santé fragiles. Jacques Aristide nous en dit plus.
Le premier cas enregistré sur le continent l'a été en Égypte le 14 février dernier. Depuis, le virus s'est propagé pour toucher actuellement 30 des 54 pays africains, avec un total de 450 cas confirmés. On dénombre pour l'heure 10 victimes, toutes en Afrique du Nord. Le Sénégal est le pays le plus durement touché en Afrique de l'Ouest avec 27 cas. Des pays comme le Maroc et la Somalie ont suspendu tous les vols internationaux jusqu'à nouvel ordre. Le Tchad, où aucun cas n'est répertorié, a également fermé ses aéroports ainsi que ses frontières terrestres avec le Soudan et la Centrafrique. D'autres ont pris des mesures d'interdiction ciblées en fonction des destinations. Le Sénégal a ainsi suspendu les liaisons aériennes avec 7 pays d'Europe et du Moyen-Orient. le Togo et Madagascar ont pris des mesures similaires. D'autres encore, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana ou la Côte d'Ivoire, interdisent l'accès de leur territoire aux non-ressortissants ou résidents venant d'un pays à haut risque.
Par ailleurs, le Cameroun a enregistré 5 cas supplémentaires, portant à 10 le nombre de malades confirmés dans le pays. Le Gabon, qui n'a annoncé qu'un seul cas confirmé, a pris des mesures drastiques, notamment la fermeture des écoles et universités. Plus de 300 familles d'un village du gouvernorat de Dakalia dans le nord-est de l'Égypte ont été placées en quarantaine en raison de l'apparition de cas de Covid-19. L'Égypte compte environ 166 cas déclarés et 4 décès liés au nouveau coronavirus. 2 des personnes décédées étaient originaires de cette région dans le delta du Nil. Le vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, a quitté son pays pour la Chine pour un contrôle médical. Il se sentait un peu souffrant, mais il était assez enjoué quand il est parti pour la Chine dimanche, a déclaré le porte-parole de la présidence, Georges Charamba. Monsieur Chiwenga a passé 4 mois l'an dernier en Chine pour un traitement médical. La semaine dernière, le président Emmerson Mnangagwa avait interdit tout déplacement international pour les membres de son gouvernement afin d'éviter toute contamination par le nouveau coronavirus. En Afrique du Sud, des malfrats extorquent des billets au plus crédule au motif qu'ils seraient contaminés par le coronavirus. Des éléments criminels font du porte-à-porte pour demander aux gens de rendre les billets qu'ils ont en leur possession, a mis en garde la Banque centrale. Ils présentent de fausses cartes d'identification de la SARB et fournissent de faux reçus en échange des billets collectés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau coronavirus a fait plus de 7000 morts dans le monde et plus de 180 000 cas d'infection ont été dénombrés dans 145 pays. Des mesures drastiques continuent d'être prises par les États pour lutter contre la propagation de la maladie et ses effets sur l'économie. Le point avec Bagassi Koura.
Ici aux États-Unis, les autorités de l'Ohio ont ordonné la fermeture des bureaux de vote où devaient se tenir ce mardi les primaires du Parti démocrate ou la présidentielle américaine. Le gouverneur républicain Mike DeWine a pris cette décision contre l'avis d'un juge à cause de la pandémie. Pendant ce temps, le Washington Post rapporte que l'administration Trump va demander au Congrès d'approuver un plan de relance économique massif d'environ 850 milliards de dollars pour endiguer la chute économique causée par le coronavirus. Près de 2000 nouveaux cas de coronavirus ont été notifiés en Espagne et 182 personnes sont mortes de l'épidémie en 24 heures, selon le dernier bilan mardi des autorités. L'Espagne, 4e pays le plus touché dans le monde, décompte désormais 11 178 cas et 491 morts, a détaillé Fernando Simon, responsable du Centre d'alerte sanitaire national. Le confinement général de la population française prévu par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus a débuté mardi. Et enfin, l'UEFA, l'Union européenne de football, propose de repousser l'Euro de football prévu en juin-juillet à l'été 2021 à raison de la pandémie.
Par ailleurs, le très fréquenté sanctuaire catholique de Lourdes dans le sud-ouest de la France a fermé ce mardi à midi pour la première fois de son histoire. Ici aux États-Unis, les électeurs dans les États de Floride, de l'Arizona et de l'Illinois se rendent aux urnes ce mardi dans le cadre des primaires démocrates. Le gouverneur de l'Ohio a reporté ce scrutin dans son État en raison de l'épidémie de Covid-19. Le point avec Abdourahman Dia.
Le gouverneur Mark DeWine a annoncé à la veille de l'élection que les bureaux de vote seraient fermés à cause de l'urgence sanitaire que constitue l'épidémie du nouveau coronavirus. Ses homologues de la Louisiane, de Kentucky et de Géorgie avaient déjà annoncé qu'ils reportaient ces primaires prévues plus tard. Mais ce mardi, des millions d'Américains sont appelés à choisir entre l'ancien président Joe Biden et le sénateur de Vermont Bernie Sanders dans 3 États, malgré les nouvelles restrictions du gouvernement fédéral qui recommandent que les regroupements ne dépassent pas 10 personnes. Mais les responsables de ces États disent avoir pris des mesures exceptionnelles pour limiter les risques de contamination. Le taux de participation pourrait bien en souffrir, mais Joe Biden espère consolider son avance face à son adversaire qui refuse refuse d'abandonner la course malgré son retard dans le décompte des délégués. Dimanche, les deux seuls candidats restants dans la course à la nomination démocrate ne se sont pas fait de cadeaux lors d'un débat télévisé.
Le service de sécurité intérieure israélien est désormais autorisé à collecter des données sur les citoyens afin de lutter contre la propagation du coronavirus ayant contaminé plus de 300 personnes en Israël. Le feu vert a été donné par le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou alors que son rival Benny Gantz a été chargé lundi, 15 jours après les législatives, de former un gouvernement pour sortir le pays d'une longue crise politique. Le chercheur français détenu en Iran et dont l'entourage était sans nouvelles depuis fin janvier a pu s'entretenir par liaison vidéo avec l'ambassadeur de France, où il est apparu amaigri et fatigué, mais dans un état plutôt rassurant, selon son comité de soutien. La compagne franco-iranienne de Roland Marshall, Fariba Adelka, chercheuse comme lui aux séries à Paris, va mieux après une grève de la faim de 49 jours, a-t-il ajouté. Le président irakien Bahram Saleh a chargé l'ex-gouverneur de la ville sainte chiite de Najaf, Adnan Zorfi, de former un gouvernement en Irak où de nouvelles roquettes ont visé des troupes étrangères. Un premier candidat, Mohamed Alaoui, avait été désigné, mais avait jeté l'éponge face à un parlement très divisé. Ce mardi avant l'aube, plusieurs roquettes se sont abattues sur la base de Basmaya, au sud-est de Bagdad, où sont postées des troupes de la coalition internationale et de l'OTAN. Les autorités brésiliennes ont annoncé mardi la capture de 444 prisonniers qui s'étaient évadés la veille de centres pénitentiaires de l'État de Sao Paulo, après l'annonce d'une suspension des sorties temporaires de leur régime de semi-liberté pour éviter la propagation du Covid-19. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le CHAN Cameroun 2020 a été reporté à une date ultérieure.
Oui, une réunion extraordinaire du comité d'organisation du CHAN et de la CAN a décidé, en concertation avec la CAF, dit-il, de reporter le CHAN Cameroun 2020 à une date ultérieure à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. La compétition devrait avoir lieu du 4 au 25 avril prochain. Le Cameroun a annoncé ce mardi 5 nouveaux cas de contamination au Covid-19, portant le nombre total dans le pays à 10.
L'Euro de football a aussi été reporté à 2021.
Face à la pandémie du coronavirus, l'UEFA a reporté à 2021 le championnat d'Europe qui devrait se dérouler à travers le continent en juin de cette année. Cette décision aidera toutes les compétitions nationales actuellement suspendues en raison de l'urgence au Covid-19, a déclaré l'UEFA dans un communiqué de presse. Ce report d'un an doit permettre à la Ligue des champions, la Ligue Europa et les championnats nationaux de clubs suspendus d'aller à leur terme en profitant des dates ainsi libérées. Avec ce report, l'UEFA écarte l'option d'un euro à huis clos ou bien d'une annulation qui pourrait priver la Confédération européenne d'une importante manne de droits télévisés. En 2016, l'euro a généré plus d'un milliard d'euros de droits télévision selon l'UEFA et un chiffre d'affaires de 1,92 milliard d'euros.
La Copa América 2020 également ramenée à 2021.
Oui, la Copa América prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 en Argentine et en Colombie est reportée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. L'annonce a été faite par la Confédération sud-américaine de football. Le tournoi, qui doit se disputer pour la première fois de son histoire dans deux pays, aura finalement lieu du 11 juin au 11 juillet 2021, selon le communiqué de la CONMEBOL.
Et le relais de la flamme olympique a été réaménagé.
Oui, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont décidé de réduire les festivités autour du relais de la flamme olympique. Un haut responsable du comité olympique nippon a été testé positif au Covid-19. C'est un crève-cœur pour nous, a regretté le directeur exécutif du comité d'organisation de Tokyo 2020, Toshiro Muto. Le grand départ du relais de la flamme olympique le 26 mars depuis la région de Fukushima dans le nord-est se fera ainsi sans spectateurs. Par contre, l'itinéraire à travers toutes les préfectures du pays reste inchangé et les spectateurs pourront toujours assister au relais le long du parcours. Mais les cérémonies de départ et d'arrivée à chaque étape seront fermées au public pour la première fois depuis 1984. La flamme olympique a été allumée jeudi dernier en l'absence des spectateurs sur le site antique grec d'Olympie.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Près de 1500 Burundais trouvés en situation irrégulière à Goma dans le Nord Kivu ont été rapatriés dans leur pays. Ils affirment être membres d'une secte fuyant des exactions et professent que la République démocratique du Congo est leur terre promise. Eddie Isango s'est entretenu à ce sujet avec Karline Zozu Kazivita, gouverneur de la province du Nord Kivu.
Moi, je ne souhaiterais pas parler de l'expulsion. On a juste renvoyé la population de la République burundaise qui s'était établie à Goma d'une façon irrégulière. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu n'a pas de frontière directe avec le Burundi. Et s'il faut examiner les irrégularités au niveau de l'immigration, c'est avec les frontières de Kavivira, du Sud Kivu, où ces populations étaient passées. C'est la raison pour laquelle nous avions décidé d'abord de les renvoyer au Sud Kivu. Et j'ai appris que les autorités du Sud Kivu les ont conduits vers la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Et comme vous le savez, chaque pays a ses lois, mais les règles sur l'immigration sont presque les mêmes. On ne peut pas accepter qu'environ 1500 personnes s'établissent dans une entité sans aucun document et sans motif valable.
Mais qui étaient ces gens? Étaient-ce des réfugiés? Quel était leur statut?
Non, sur le plan des droits internationaux, jusque-là, ils ne sont pas des réfugiés. Ce sont déjà, soit ils sont passés par la frontière de Kavivira avec des documents d'entrée au Congo pour une durée de 2 ou 3 mois, et après, ils ont décidé de prolonger soit leur séjour à la République démocratique du Congo. Ils se disent d'une secte religieuse qui est à dissidence avec l'Église catholique au Burundi, et malheureusement pour eux, ils commençaient à dire que la République démocratique du Congo, c'est leur terre promise, ce qui a énervé d'abord beaucoup déjà à Goma, au Nord Kivu, vu l'histoire de la région, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences au niveau sécuritaire de la présence des réfugiés rwandais de 1994. Et donc, comme autorité publique, nous avions aussi la responsabilité de protéger ces personnes, parce qu'en fait, l'opinion au Nord Kivu est tellement hostile à leur présence, surtout qu'ils sont arrivés à Goma sans aucun motif valable, mais aussi sans document.
Savez-vous si parmi eux, il y avait des gens impliqués dans les coup d'État manqué au Burundi, parce qu'on dit que les services de sécurité en auraient identifié certains?
Personnellement, nous n'avions pas pu mettre beaucoup de temps pour savoir qu'est-ce qui a fait quoi au Burundi, mais nous avions constaté qu'il y a quand même des enfants qui ont été séquestrés par des personnes adultes, les transformer en des réfugiés inédits, parce que j'ai reçu quand même beaucoup d'appels des familles burundaises qui réclamaient leurs enfants, soit une maman qui est restée au Burundi ou les mari a pris des enfants sans leur consentement. Ça a été quand même pour nous une situation inquiétante. Je crois qu'il y a de quoi douter à ce point-là si on doit considérer que tous ces enfants n'avaient pas de problème sur leur sol au Burundi, mais qui sont contraints de vivre la clandestinité à République démocratique du Congo.
C'était Karline Zonzu Kazivita, gouverneur de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24/24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
La Mauritanie a enregistré son premier cas de Covid-19. L'inquiétude gagne les populations et l'État a lancé une campagne de riposte nationale. Tous les vols à destination du pays sont suspendus. Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, nous en dit plus.
Le premier cas du coronavirus a été détecté chez un ressortissant étranger ayant séjourné en Europe, a dit le ministre de la Santé, Mohamed Nadirou Hamed.
Il nous a informé qu'il a la fièvre. Nos services se sont rendus sur place. Ils ont fait le prélèvement. L'analyse a continué et j'ai eu le résultat. Et donc le cas est positif.
Selon la presse locale, le patient est un Australien qui travaille à Kinross Tasiast. la société d'exploitation de l'or dans le nord du pays. La nouvelle répandue, certains se sont précipités dans les pharmacies pour acheter des masques de protection. Dans la rue, ce chauffeur de taxi exprime sa peur.
Ça bouleverse le monde et on est obligé d'être peur. L'État-Unis est plus fort que nous. Et le maladie est là-bas, il est en train de tuer les gens. Et nous ici, on est là, c'est Dieu seulement qui nous protège.
Ce commerçant réclame quant à lui plus de transparence et de fermeté de la part de l'État dans la gestion de cette maladie, tant au niveau communicationnel, sécuritaire que sanitaire. L'État a lancé un plan de riposte. Toutes les personnes en provenance de l'étranger sont mises en quarantaine pour 2 semaines. Aussi, les écoles sont fermées, les vols à destination de la Mauritanie suspendus et les regroupements non essentiels interdits. Sur le terrain, les ONG contribuent à la sensibilisation des populations. C'est le cas de l'association Dawa. Sa présidente est Oumou Khairat. Des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le patient sont actuellement mises en quarantaine pour éviter la propagation du virus. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
L'impact de la pandémie du Covid-19 se fait désormais ressentir dans le monde entier. Cela se traduit par la fermeture de certaines frontières, le confinement de la population ou l'obligation de chômage technique pour certaines usines. Les marchés boursiers ont subi de lourdes pertes. Claire Morin-Gibourg revient sur les décisions prises par certains dirigeants et leaders mondiaux pour tenter d'enrayer cette crise.
50 milliards de dollars a annoncé le président Donald Trump. Pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ce sera 25 milliards d'euros. Au Canada, le premier ministre Trudeau mise sur 50 milliards de dollars. C'est ainsi que certaines des plus grandes économies du monde ont réagi face à la panique déclenchée par le nouveau coronavirus. Ce n'est pas une crise financière, a affirmé Donald Trump. Le président américain a signé un projet de loi sur les dépenses d'urgence de 8,3 milliards de dollars, des prêts à faible taux d'intérêt destinés aux entreprises vulnérables et des paiements d'impôts différés sans intérêt ni pénalité. Cela va permettre d'apporter plus de 200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires à l'économie, a ajouté Donald Trump. Des réductions des charges sociales et des congés maladie payés pour les employés ont aussi été discutés. La Réserve fédérale américaine a baissé ses taux d'intérêt de 0,5% pour la première fois depuis la crise financière de 2008. Pour Liu Guoqiang, le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, un soutien solide sera fourni à la politique monétaire pour lutter contre l'épidémie et promouvoir le développement de l'économie. La Chine a affecté 15,9 milliards de dollars pour soutenir les régions touchées. La Banque centrale a abaissé plusieurs de ses taux directeurs et a exhorté les banques à accorder des prêts bon marché et à alléger les paiements aux entreprises exposées. La Commission européenne mettra en place un fonds d'investissement doté de 25 milliards d'euros pour amortir le coût porté au secteur vulnérable. Ursula von der Leyen a affirmé que tous les outils à disposition seront utilisés pour que l'économie européenne résiste à cette tempête. L'Italie a été le pays de l'Union européenne le plus durement touché. Après avoir estimé que seulement 7,5 milliards d'euros seraient nécessaires pour lutter contre la crise, le Premier ministre Giuseppe Conte a été obligé de revoir à la hausse le budget. 25 milliards d'euros seront finalement mis sur la table. Cela signifie aussi que le déficit budgétaire de l'Italie en 2020 devrait dépasser les 3% de la production nationale, c'est-à-dire un des plafonds fixés par les règles de l'Union européenne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le centre du Mali est longtemps resté relativement à l'écart des révoltes séparatistes menées très loin, dans le nord. Mais quand la crise a éclaté en 2012 avec les offensives des rebelles Touareg alliés aux djihadistes, elle n'est pas restée confinée aux vastes étendues désertiques septentrionales. Et aujourd'hui, le centre du pays est pris dans un tourbillon de violence. Salwa Jafari revient sur ce drame.
Des années de massacres ethniques et d'attaques djihadistes incessantes ont laissé des traces indélébiles au centre du Mali. Des villages fantômes, des familles déchirées, des réfugiés par centaines. Une insurrection islamiste a éclaté dans le nord du pays en 2012, faisant des milliers de morts parmi les militaires et les civils. Mais la violence a depuis balayé le centre du pays, ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin, exacerbant les tensions ethniques. Bouirima Bari est un agriculteur déplacé.
Depuis le début de la crise, il n'y a jamais eu d'amélioration. Dans notre village, nous avons été les premiers à nous échapper. Derrière nous, il en restait quelques-uns. Mais en peu de temps, tout le monde a dû fuir. Cela fait maintenant un an que nous avons quitté notre village et la situation ne s'est jamais améliorée.
Un avis partagé par Mamadou Lamine Diop, qui travaille pour le HCR.
L'accès humanitaire devient de plus en plus réduit. Il devient de plus en plus réduit du fait des zones contrôlées par certains groupes armés qui sont, disons, beaucoup plus, en tout cas, résolus à ne pas accepter, sinon même décourager une présence humanitaire. Il décourage tout contact entre la population civile qui reste sous leurs ordres et l'intervention humanitaire.
Les déplacés se rassemblent dans les grandes villes du centre du Mali comme Mopti et Sévaré. Sur 200 000 personnes déplacées par le conflit malien, la moitié sont situées dans le centre. Le gouvernement est dépassé. À ce stade, toute aide est la bienvenue. Abdoulaye Cissé est gouverneur de Mopti.
Le problème n'est pas que militaire. Il faut globaliser le problème. Les humanitaires doivent jouer leur partition, les politiques doivent jouer leur partition, et l'administration aussi doit jouer sa partition. C'est cet ensemble-là qui va faire en sorte que la paix des cœurs, la paix des braves peut se faire ici à Mopti.
Ni l'armée malienne, ni l'amunissement aujourd'hui ne sont capables de protéger de façon appropriée les personnes civiles, surtout dans la région du centre.
Aliountine, un expert indépendant envoyé au centre du Mali par les Nations Unies fin février, a déclaré que ni les troupes maliennes ni les soldats de la paix des Nations Unies n'étaient en mesure de protéger les civils. L'ONU compte quelques 13 000 personnes stationnées au Mali dans le cadre de sa mission de maintien de la paix, la MINUSMA.
Nous avons dit également qu'il faudrait que le Conseil de sécurité des Nations Unies réévalue la question sécuritaire au centre et que vraiment le Conseil de sécurité essaye d'adapter le mandat de la MINUSMA en conséquence. Ça c'est une urgence aussi. Parce que le centre aujourd'hui, de mon point de vue, est une espèce de digue. Si jamais le centre cède, c'est la plus grosse menace pour la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest, dans leur ensemble.
Le mois dernier, le gouvernement a admis pour la première fois qu'il tentait d'établir des pourparlers avec les groupes militants, une option qu'il avait depuis longtemps écartée. L'alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, dont le groupe de Koufa est membre, a déclaré la semaine dernière qu'elle était ouverte à la possibilité d'un dialogue.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïma. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Avec vous.